Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graphite. Aujourd'hui, c'est les échos de l'innovation. On va parler de l'ingénieur de demain et de ses nombreux défis. Un sujet qui touche bon nombre de nos auditeurs, j'en suis sûre. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Agathe Lotz de l'association UTCN Compiègne en Transition ainsi que Margot de l'association Stop Canal. Bonjour.
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 Alors aujourd'hui, nos deux invités vont pouvoir répondre à quelques questions sur notamment leurs associations. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association en quelques mots ?
Je peux commencer, ouais. Donc, ouais. Moi, je suis Agathe Lotz, coprésidente de Compiègne en Transition, donc, qui est une association qui a été créée en 2016-2017. D'abord, c'était une sorte de partenariat entre l'UTC et la ville, et qui a ensuite été rattachée seulement à l'UTC en 2010. Et donc, qui s'occupe un peu d'essayer d'orienter les étudiants ainsi que le corps administratif de l'UTC vers une transition écologique et à potentiellement remettre en question nos modes de vie, nos modes d'enseignement, nos habitudes et à se poser tout un tas de questions sur l'ingénierie, les low-tech, la permaculture et tout un tas de choses assez intéressantes.
Du coup, moi, c'est Margot. Je fais partie du collectif Stop Canal. Donc c'est un peu différent parce que c'est pas une association de l'UTC, mais juste des étudiants qui ont décidé de se réunir en collectif pour monter une lutte contre le projet du canal Seine-Nord-Europe, qui est en fait une liaison fluviale qui a pour projet d'être construite entre Compiègne et Aubourg-Cholobac dans le Nord, et qui fait 114 km de long. Et pour plein de raisons, notamment économiques, sociales, de dégâts sur l'environnement, sur la biodiversité, on pense que ce projet est vraiment néfaste et qu'il faut donc lutter contre sa construction. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et on s'est aussi associé avec un collectif citoyen, Méga Canal Non Merci, avec qui on travaille beaucoup et avec qui on monte des événements et on va voir des politiques, des alliés, des luttes, etc. Pour essayer de faire avancer la lutte.
Ok, donc vous avez prévu la prochaine question. Du coup, on va passer à une autre question. Donc, selon vous, comment les étudiants peuvent-ils s'impliquer et contribuer efficacement à vos efforts dans la transition écologique, notamment ?
Souvent, il y a la différence entre les actions individuelles qui sont très mises en avant, je trouve. Et moi, je pense qu'il y a aussi une action collective qui serait très importante et qui peut permettre même individuellement de se sentir beaucoup plus utile qu'à travers des actions individuelles. Donc je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à travers Compiègne en Transition et le collectif contre le canal. Et donc pour moi, ouais, c'est vraiment les actions collectives qui permettent d'avoir peut-être un impact un peu plus concret et plus important que des actions individuelles qu'on peut faire tous individuellement sans forcément d'association ou de collectif.
Ouais, je rejoindrai Margot là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à nous faire porter la charge sur l'individu des petits gestes à échelle individuelle qui marchent effectivement mais ne seront jamais suffisants. Et c'est vrai que selon moi, il y a un peu quatre sphères dans lesquelles on peut s'engager pleinement en tant qu'individu de la société. C'est la sphère politique individuelle, la sphère militante associative, la sphère universitaire et la sphère professionnelle. Effectivement, on peut, via des gestes individuels, consommer moins de viande, trier ses déchets, enfin, on les connaît, mais également en s'engageant politiquement, donc en orientant son vote vers des candidats qui font le plus d'efforts possible ou qui, en tout cas, nous donnent l'impression qu'eux. On peut aussi effectivement s'engager dans des assos, donc dans CET à l'UTC, mais ça peut être dans plein d'assos étudiantes ou autres, avec plus ou moins d'impact, aller militer sur le terrain. On a largement l'exemple en tête de la 69 par exemple, avec des ZAD, etc. Et ça a un réel impact. Ensuite, d'un point de vue universitaire, si on prend le cas de l'UTC, mais c'est dans d'autres écoles d'ingénieurs et dans d'autres écoles tout court, il y a des projets qui sont mis en place, le label ingénierie soutenable dans notre cas, des mineurs qui cherchent à justement sensibiliser, porter un regard critique sur nos cultures, aborder des enjeux de low-tech par exemple, et effectivement la sphère professionnelle. Donc ça peut être essayer de changer le système de l'intérieur, par exemple via une entreprise qui va essayer d'avoir une politique RSE ou qui va essayer de effectivement changer de l'intérieur, même s'il y a beaucoup d'inertie, ou ça peut être de totalement changer, de bifurquer en fait, et essayer de créer des activités parallèles qui ont plus de sens pour nous. Et donc voilà, il y a un peu ces domaines-là dans lesquels on peut effectivement s'engager.
Ok.
D'ailleurs, selon vous, de quelle manière l'association est-elle perçue par les étudiants ? On a compris que vous travaillez beaucoup sur l'éducation et la façon de s'engager des étudiants. Et trouvez-vous que le regard des étudiants sur votre association, elle a évolué au fil du temps ?
Dans le cas de Compiègne en transition, effectivement, ça fait un an et demi que l'association a pris une tournure un peu plus activiste. Au début, elle proposait beaucoup d'activités, de par exemple faire son savon soi-même, des petites conférences, mais ça restait assez pacifique, si on peut dire. Et c'est vrai qu'il y a un an et demi, un an, l'activité s'est un peu diversifiée, avec des apéros engagés, avec des positions un peu plus fortes, et à la fois toujours laisser la place à ceux qui n'ont pas forcément envie de prendre position, de pouvoir s'intéresser, s'instruire et en apprendre plus sur les causes environnementales. Et donc le regard a changé beaucoup à ce moment-là, je pense, en bien ou en mal, mais dans tous les cas, ce qui a importé, c'est qu'on a parlé de nous. Et donc ça fait qu'on s'est fait connaître plus et que les gens se sont intéressés. Donc ça a soulevé des gens qui se sont opposés. Et à la fois, on sent bien que les mentalités changent. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent à nos événements. Et voilà, ça nous rend plutôt fiers. Donc je pense que dans tous les cas, les mentalités changent. Trop doucement, certes, mais elles changent quand même. Et donc le regard que les gens portent sur Compiègne en transition aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont dans tous les cas intéressés par ce qu'on fait. En bien ou en mal, mais...
Je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, Agathe. Je pense que vraiment, il y a eu un changement à ce moment-là. Et que, oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord forcément avec ce qui se passe. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont rejoint l'association grâce à cette prise de position et qui, justement, appréciaient beaucoup. Et se sont dit, vas-y, je vais aussi participer à ça. Et je viens à l'association. Donc, ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Mais on est aussi conscient que c'est pas non plus la majorité des gens.
Et justement, j'ai une question qui rejoint un peu la précédente. C'est comment vous mesurez, donc mis à part vis-à-vis des étudiants, comment vous mesurez l'impact de vos actions au sein de l'UTC et même au-delà du coup, notamment pour le canal, j'imagine.
Alors c'est vrai que c'est un enjeu qu'on a beaucoup. Des fois, c'est difficile à mesurer tout le temps. Pour parler plutôt du collectif du canal, nous, on essaye de beaucoup aller communiquer avec la presse, des médias, pour avoir justement être entendu déjà au niveau local, parce que du coup, c'est une lutte qui est bien plus au-delà de l'UTC. C'est la ville de Compiègne, mais aussi tout le département de l'Oise, de la Somme, la région Hauts-de-France. Et en fait, comme c'est un projet tellement immense, on pense que à un moment donné, il faudra aussi passer à en parler au niveau national. Donc, on cherche constamment de nous faire parler. Et l'impact aujourd'hui, il est pas, enfin, pour nous, il est encore trop faible. Et on essaye de plus en plus d'avoir de plus en plus d'impact. Mais c'est ce travail, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et on peut pas avoir tout de suite une énorme contestation contre un tel projet. Du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se prépare, c'est un long processus qui n'est pas simple et donc c'est ce qu'on essaye de faire.
Et pour les actions menées par Compiègne en transition, comment on mesure l'impact qu'on a sur les personnes ? Je pense que ça se voit déjà à l'échelle de notre cursus universitaire, puisqu'on on est vachement suivi par des professeurs aussi, des professeurs qui sont hyper engagés, avec qui on travaille, et on va essayer de mener des actions un peu complémentaires. Donc ça se mesure à la capacité qu'ils ont eux aussi, via peut-être un peu aussi par nos activités mises en place, à convaincre le restant du corps administratif et du corps enseignant de faire évoluer les choses, parce que c'est vrai que des enseignants-chercheurs qui ont appris à enseigner depuis des générations, c'est compliqué pour eux de, d'accepter le problème et d'y participer ensuite. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place de plus en plus, donc on se rend bien compte que on a un impact. Et ensuite, bah, tout simplement, à l'influence des gens à nos événements, aux réactions des gens sur les réseaux sociaux aussi. On va poser des questions parfois avec des prises de position assez fortes. On voit bien que ça remue les gens. Et les gens en parlent. Quand on passe dans les couloirs, il y avait eu un sujet assez controversé en début d'année. Et on entendait bien dans les couloirs que ça en parlait. Donc c'est un peu comme ça qu'on le mesure, ouais. Même si effectivement ça prend du temps.
En parlant des professeurs et du personnel, est-ce que vous avez des points spécifiques à mettre en avant pour essayer d'améliorer l'engagement de l'UTC?
De l'UTC en tant que tel, déjà je pense essayer de mettre de plus en plus, enfin plus en avant en tout cas les parcours parallèles à notre cursus universitaire classique. Je citais tout à l'heure le label Ingénierie Soutenable. Il y a aussi, moi je fais un mineur qui aborde un regard assez technocritique sur ce qu'on fait, qui aborde le fait que la technique n'est pas neutre et que ça a un impact sur un impact social, environnemental, économique, éthique, et ce qui n'est pas abordé du tout dans nos enseignements de sciences dures et de sciences techniques. Et donc essayer de mettre en avant ça encore plus. Et ensuite, quoi d'autre ? Faire en sorte de créer un réel dialogue entre les enseignants des sciences dures et des sciences humaines qui ont du mal à communiquer parce que chacun reste un peu sur ses positions. Et c'est inévitablement ensemble qu'on trouvera une voie. Donc, accentuer la communication avec eux et essayer de trouver des leviers pour leur faire rendre compte qu'il faut agir, quoi.
Ouais. Et du coup, pour Stop Canal, on sait que certains enseignants sont impliqués dans le projet, notamment.
Oui, en fait, on a créé ce semestre ce qu'on appelle le canal alternatif. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui, à travers des UV, participent à se documenter autour du projet du canal Seine-Nord Europe, que ce soit au niveau très technique sur la question de l'eau, par exemple, mais aussi sur des sciences humaines, sur les controverses de la création d'un chantier de telle ampleur, etc. Et donc, ça, forcément, c'est aidé par des professeurs qui supervisent et qui permettent de faire ces UV. Et c'est vrai que pour nous, c'est super important parce qu'avoir utilisé en fait, la pédagogie et les moyens de l'UTC pour une lutte comme celle-ci, ça nous aide beaucoup. Et surtout que face à nous, ceux qui veulent mettre en place ce projet, ils travaillent dessus à longueur de journée. Donc nous, quand on a une journée de cours et que derrière, il faut qu'on aille lire les rapports environnementaux, etc., c'est pas forcément, ça prend de l'énergie et c'est pas forcément facile. Donc pouvoir le faire dans le cadre des cours, c'est vraiment très bénéfique. Donc si ça intéresse des gens, on fait le canal alternatif, je fais ma petite pub en même temps. Et il y aura même, je crois... Enfin, en tout cas, on a le projet de développer ça au prochain semestre de faire une API. Je confonds les deux souvent, mais voilà.
Et justement, en parlant de ça, quelle est votre actualité et les prochains événements?
Alors, nous... Prenez des notes, il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Non, en vrai, le premier, le plus important... C'est la fête de l'eau, qui est la deuxième. On en a fait une en décembre, à Compiègne. Et donc, on en fait une deuxième le 1er juin, qui consiste à un village un peu de festivités, avec plein d'associations, avec plusieurs activités un peu marquantes pour montrer notre opposition à la lutte, mais aussi de présentation pour les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés. Et tout ça dans une ambiance assez conviviale. Le but, c'est aussi de se faire plaisir et que ce soit pas une manifestation un peu morose. Et ensuite, on sera aussi présent sur d'autres luttes. Par exemple, je peux citer la lutte de Rockwool qui a lieu à Soissons. Et donc, on va avec eux à leur événement qui a lieu le 15-16 juin. Il y a également la lutte contre les méga-bassines dans le Poitou, qui fait un gros événement en juillet, le 21-22 juillet. Et on y sera également, parce que c'est très en lien avec notre lutte, dans laquelle, je précise, il y a une construction dans le projet du canal Seine-Europe, il y a une construction de méga bassine prévue qui fait 22 fois la taille de celle de Sainte-Soline. Donc c'est vraiment énorme. Et donc on va soutenir aussi les autres luttes.
Et concernant Compiègne en transition, bon, on en a demain, je pense que ça sera peut-être déjà trop tard, mais on en a un demain porté par deux garçons de l'association qui gèrent la construction d'un habitat low-tech, et donc qui demain vont faire un atelier sur la permaculture. Voilà, ça reste un peu en lien, ils sont assez renseignés sur le sujet. Et sinon, on en a un la semaine encore d'après, organisé par Margot, qui fait aussi partie de Compiègne en transition, qui portera sur, je te laisse le dire.
On a une projection d'une sorte de ciné-débat sur un film qui s'appelle Pendillé, et qui est en lien avec la biodiversité, la technocritique, etc. Voilà, et il y a le réalisateur qui sera là, qui animera un petit événement de débat après le film.
Voilà, on en a encore la même semaine, le jeudi, avec Tom Lecreux, un ancien de l'UTC qui cherche à développer une entreprise qui s'appelle My Green Body, et qui essaie d'accompagner les étudiants à potentiellement trouver des choses qui ont du sens dans le milieu professionnel. Et donc voilà, il lance ça. Et donc il y aura d'autres apéros engagés d'ici la fin de semestre. Mais sinon, le gros événement qu'on essaie d'organiser en ce moment, il se déroulera sur la semaine du 22 au 27 septembre. Et ça s'appelle le Festival de l'ingénierie souhaitable. Et donc, ça va être une semaine qui sera tournée autour de la bifurcation, et notamment sur les quatre sphères dont j'ai parlé plus tôt, donc la sphère politique, professionnelle, associative et universitaire. Et avec donc quatre jours de conférences là-dessus, avec des professeurs de l'UTC, des étudiants, des débats autour de tout ça. Et le dernier jour, une journée sur laquelle on invitera des entreprises et des associations engagés qui sont accordés avec nos valeurs et les valeurs que CET défendent, pour justement proposer aux étudiants des stages potentiellement et de quoi s'orienter en donnant du sens à ce qu'ils font.
Tout un programme.
Je suis sûr que ça peut intéresser certains de nos auditeurs. Est-ce que vous recrutez ? Ou est-ce qu'on vous contacte ? Voilà.
On recrute toujours, toujours. On veut toujours faire plus de choses. Bien sûr, on recrute. Et donc, on nous contacte sur les réseaux sociaux. Si c'est des gens de l'UTC, ils peuvent nous contacter par mail avec notre adresse mail etu.compiègne-en-transition@asso.utc.fr. Sur Instagram, cet-utc. Et sinon, lors de nos événements, pour lesquels on fait pas mal de communication, donc c'est assez simple de nous trouver. Et bien sûr qu'on recrute, et ça peut être des gens qui n'ont aucune compétence et aucune idée vraiment de ce qu'ils font, mais juste envie de participer à quelque chose, et des gens hyper chauds en environnement.
Et au canal, au collectif contre le canal, on recrute toujours, forcément, on a toujours besoin de plus de monde qu'on a déjà. On peut pareil nous contacter sur notre Instagram StopCanalUTC. Aussi lors des événements, on fait toujours souvent un amphi de présentation au début du semestre, où on recrute beaucoup. Après, il y a aussi, beaucoup des gens engagés sont aussi à Compiègne en transition. Et donc, on peut aussi communiquer lors des événements de Compiègne en transition, lors de la fête de l'eau, si vous venez. Et puis voilà.
Eh bien, merci de nous avoir répondu. On se quitte quelques instants pour une interlude musicale en compagnie de Oasis, avec la chanson Don't Look Back in Anger, pardon. Mais d'abord, c'est Blur avec Girls and Boys. Vous êtes toujours sur Graphite 94.9. We'll be right back.
Vous êtes de retour sur Graphite 94.9 après cette petite interlude musicale pour la suite des échos de l'innovation. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique low-tech. Donc, le but de cette rubrique, c'est de mettre en avant un projet UTC1 qui, selon nous, le mérite et qui, évidemment, rentre dans un cadre low-tech. Mais tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que la low-tech ? La low-tech, donc, c'est l'abréviation de low technology, et ça désigne un ensemble de pratiques, de techniques et de solutions technologiques simples, peu coûteuses, qui sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques de manière efficace et durable. Donc pour que vous puissiez vous en faire une idée, on peut la comparer à la high-tech, qui repose sur des technologies complexes et coûteuses, alors que la low-tech se base sur des principes de simplicité, de durabilité et d'accessibilité. Donc la low-tech repose souvent sur des technologies existantes, voire parfois même très très anciennes, et elle utilise des ressources locales pour préserver la durabilité du projet en question. Donc vous l'avez compris, la low-tech s'intègre dans un courant d'idées plus large, plus vert, visant à réduire l'empreinte écologique en minimisant la consommation d'énergie, en limitant les déchets et en favorisant l'autonomie des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de vous présenter le projet de l'association HEAL UTC. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, HEAL, ça, l'abréviation c'est H-E-A-L, donc c'est pour Habitat Écologique Autonome Low-Tech. Le projet de l'association HEAL, c'est une initiative ambitieuse visant à construire un habitat écologique autonome et low-tech, inspiré par des paillourtes traditionnelles. Donc c'est des maisons anciennes, donc c'est assez rond avec des toits en poids, un toit plat, excusez-moi. Donc ces habitations, elles seront construites en utilisant des matériaux naturels comme de la terre, de la paille et du bois. Cela nous montre qu'il est possible de vivre de manière plus soutenable tout en respectant les principes de l'éco-responsabilité. Ce projet est porté par un collectif d'étudiants donc, de l'UTC, avec un objectif principal qui est de promouvoir un mode de vie respectueux de l'environnement en mettant l'accent sur l'autonomie énergétique et la simplicité technologique. Le principe d'autosuffisance et les techniques low-tech seront au cœur de l'habitat développé par l'association HEAL UTC en mettant l'accent sur la captation d'eau de pluie et la création de leur propre énergie. Donc en combinant ces principes d'autosuffisance avec des techniques low-tech, l'habitat développé par HEAL représente selon moi une approche holistique et durable de la vie quotidienne, mettant en avant la résilience et la responsabilité environnementale. L'association, elle offre également une opportunité unique de contribuer à ce projet novateur, en permettant à chacun de poser sa pierre à l'édifice. HEAL intègre donc son projet de construction d'habitat low-tech au cœur d'un chantier collaboratif, favorisant ainsi l'implication active et la participation de la communauté. Et selon moi, c'est la chose la plus importante dans ce projet. Pouvoir mettre la main à la pâte dans un projet portant des valeurs de durabilité, c'est super important. Et en plus d'être important, c'est aussi intéressant donc. On nous dit souvent que notre génération est moins débrouillarde, on ne sait pas travailler de nos mains. Mais ce projet de chantier collaboratif, c'est justement l'occasion d'apprendre ou de transmettre nos connaissances. Et je pense qu'ici, on vient toucher du doigt un point central du projet, qui est le partage en fait. Donc finalement, en plus de promouvoir la durabilité et l'éco-responsabilité, le projet de HEAL met en exergue des valeurs humaines primordiales comme le partage. Par ailleurs, si vous allez visiter leur Instagram, donc c'est heal.utc, H-E-A-L.utc, vous aurez accès à toutes les informations pour participer au projet. Et si vous avez assisté à la comédie musicale de l'UTC le semestre dernier, vous reconnaîtrez certainement quelques têtes. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de vous parler de HEAL, mais n'oublions pas que de nombreuses associations UTCN mettent en avant des valeurs similaires, donc on n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est important de le rappeler. D'ailleurs, c'est important de faire vivre nos assos, parce que c'est aussi grâce à elles qu'on a la chance de kiffer notre vie à l'UTC. Bon, après ce qui peut ressembler à une plaidoirie pour nos assos, on va se quitter quelques instants. On vous laisse avec Breaking the Girl des Red Hot.
Vous êtes toujours sur Graphite 94.9.
her innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Iron shards stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the falls, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again.
Allez, on enchaîne car maintenant c'est l'heure de la Minute Culture. Alors, aujourd'hui je vais vous parler en premier d'un documentaire qui s'appelle tout simplement Low-Tech. C'est un film d'Adrien Bellay que peut-être vous avez eu la chance de découvrir en salle il y a un an. Mais si comme moi vous êtes passé à côté, sachez qu'il est disponible à la location sur Canal VOD, Universciné et Cinémutin. C'est un très beau documentaire qui est autant porteur d'urgence que d'espoir et qui nous emmène à la rencontre de réparateurs et bricoleurs, des formateurs en production d'énergie, des entrepreneurs en solutions vertes, des agriculteurs et des communautés prêtes à changer leurs pratiques pour mieux vivre demain. Si vous avez une tendance à l'éco-anxiété mais que le sujet de l'environnement vous est cher, ce documentaire étant porté sur les solutions pratiques que mettent en œuvre tous ces gens, plutôt que sur les chiffres affolants, il vous permettra de mieux appréhender les questions d'urgence climatique sans toutefois être apocalyptique. Ça fait du bien, c'est empathique, jamais moralisateur, et ça donne envie d'aller bricoler pour participer, nous aussi, au chantier du monde de demain. Ma deuxième recommandation est un livre qui s'appelle « Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire ». C'est un tout petit livre de Philippe Biwix qui est également l'écrivain du livre « L'âge des low-tech », qui est probablement l'ouvrage le plus connu sur le sujet. Mais moi, j'ai choisi de vous parler de celui-ci, car premièrement, il est plus récent, car paru en 2019 aux éditions Seuil. Et deuxièmement, car j'aime les produits culturels sur l'environnement qui sont porteurs d'espoir et qui donnent envie de se retrousser les manches en se disant que finalement tout est possible. Ce livre commence par un constat simple qui est que, malgré des promesses de bonheur technologique à venir, celles-ci ne viennent pas. Pire, l'auteur s'attache à démontrer la fuite en avant que constituent les technologies visant au progrès et à la croissance, sans accorder la moindre importance aux limites physiques de notre monde. Ce livre remet en question beaucoup de solutions avancées pour répondre aux enjeux actuels et tente de remettre en question notre vision de la croissance et de notre croyance envers les technologies high-tech. Philippe Bioui étant ingénieur, il a ce regard qui sera toujours familier aux autres ingénieurs, mais aussi une vision multidisciplinaire qui permet d'avoir un champ large sur une analyse poussée des enjeux économiques et sociétaux autour de la technologie. Dans la seconde partie du livre, il propose quelques solutions qui permettent d'entrevoir que peut-être le bonheur est pour demain. Un livre intéressant et parfois drôle, qui permet de nous interroger sur notre rapport à la technologie et souvent à son non-sens. Vous pourrez retrouver le documentaire Low Tech d'Adrien Bellet en vidéo à la demande sur Canal VOD, Universciné et Ciné Mutin, et le livre de Philippe Bioui, Le bonheur était pour demain, rêverie d'un ingénieur solitaire, aux éditions Seuil dans la collection Anthropocène. Allez, on va finir cette émission de manière un peu plus légère avec le quiz Low Tech. Le Low Tech a trois grands principes de base sur lesquels repose toute la philosophie du concept. Lesquels sont-ils ? Proposition A, inventif, accessible, durable. Proposition B, utile, bien pensé, pratique. Proposition C, écologique, bien pensé, économique. Et proposition D, utile, accessible et durable.
Alors moi, je pense que c'est la réponse D.
Exactement. Les trois piliers de la Low Tech sont utiles, accessibles et durables. D'après les chiffres du Low Tech Lab, qui recense un grand nombre de projets Low Tech à travers le monde, un domaine est particulièrement propice au Low Tech avec le nombre de 490 projets. Lequel ? A, l'agriculture, l'énergie, les déchets ou l'habitat ?
Bah, je pense que je serais tenté de répondre à l'agriculture, mais ça me paraît un peu facile. J'hésite avec l'énergie. Ouais, je vais dire la réponse B, l'énergie.
Eh bien, il s'agit de l'énergie, tu as raison. Avec 47,1% de la totalité des projets devant l'alimentation et l'eau, on retrouve dans cette catégorie des solutions comme le four solaire ou les éoliennes, plus classiques. D'ailleurs, l'Europe est le premier continent en nombre de projets low-tech. Mais dis-moi, quand est apparue cette notion de low-tech ? Est-ce que c'est en 2002, en 2014, vers 1990 ou vers 1970 ?
Je pense que c'est un principe qui a un peu d'âge déjà. Je pense qu'il a pu vieillir un peu et qu'il n'est pas si récent que ça. Je pense que ça date des années 70.
Eh bien, tu as raison, puisque la low-tech a fait son apparition vers les années 1970 avec, oula, je vais écorcher, Ernst Friedrich Schumacher, un économiste britannique qui avait popularisé le concept du « small is beautiful », peut-être que vous connaissez, le mouvement de déconsommation, là aussi pas très nouveau, et cependant de plus en plus porté par la nouvelle génération en quête de sens et d'impact positif sur le social et l'environnement. Pour preuve, le succès de l'appel au réveil écologique des jeunes générations. Combien existe-t-il d'entreprises low-tech en France aujourd'hui ?
J'ai pas de fourchette pour m'aider.
Ah, tu veux... J'ai des chiffres même. 30, 152, 219 ou 267.
Des entreprises low-tech, donc axées sur le low-tech directement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je dirais 30. C'est ça la réponse A.
Eh bien, en vérité, selon les sources, le chiffre varie entre 219 et 289.
Ah oui, quand même.
Mais ce sont 12 domaines de l'industrie qui connaissent des projets low-tech. Donc, c'est bien plus que ce qu'on pense.
Ok.
Et le Fairphone, est-ce que tu en as déjà entendu parler ?
Non, pas du tout.
C'est probablement la plus connue des inventions low-tech, mais quel est son atout majeur ? Tous les éléments sont modulables et remplaçables, donc facile. Les matériaux sont à 100% issus du recyclage. L'OS, donc le logiciel qui permet de faire fonctionner le téléphone, n'est pas conçu sur la base de mises à jour trop régulières qui entraînent de l'obsolescence programmée. Ou enfin, tous les plastiques sont faits à base d'une algue qui envahit les côtes de plusieurs pays sous l'effet du réchauffement climatique.
Alors, j'en ai absolument aucune idée. Et pour paraphraser un sketch bien connu, je vais dire, par tout hasard, D, la réponse D.
Eh bien, tous les éléments sont modulables et donc facilement remplaçables, mais aussi les matériaux sont à 100% issus du recyclage. Et enfin, tous les plastiques sont faits à base d'une algue qui ont envahi les côtes de plusieurs pays sous l'effet du réchauffement climatique. C'était un piège, il y avait plusieurs réponses.
Ok.
Si tu ne connaissais pas cette innovation, c'est... C'est une invention de mémoire néerlandaise où c'est un téléphone portable classique, mais dont la production est bien plus respectueuse que les marques les plus classiques qu'on connaît tous. Les low-tech étant des technologies qui se basent sur des logiques qui ne sont pas celles de la croissance et de la rentabilité, elles restent encore aujourd'hui très marginales à cause de soucis de rentabilité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Moi, je pense que c'est faux.
Tu penses que c'est faux ?
Ouais, je pense que c'est faux.
Eh bien, malheureusement, c'est vrai. Les valeurs du low-tech étant à contre-courant du principe même de la croissance et de la rentabilité, car elles se basent sur du recyclage et du DIY, elles restent encore très marginales et malheureusement boudées par les entreprises qui peinent à vouloir investir là-dedans.
C'est bien dommage.
Voilà des choses à changer.
Ouais.
Eh bien, voilà, c'en est fini du quiz low-tech et par la même occasion, il est l'heure de clore cette émission. Merci d'avoir écouté les Échos de l'innovation. C'était une première pour nous et nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de le faire ici chez Graphite.
On remercie une nouvelle fois nos invités, donc Agathe et Margot, des associations Compiègne en transition et Stop Canal d'avoir répondu à nos questions. C'était hyper intéressant. Je pense que pour vous aussi, c'était, ça a dû paraître très très intéressant. Merci à Clément Mavie, enseignant dans l'UV SI1, de ses conseils et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.